Donc, je m'appelle Gabriel Dabi-Schwebel, je suis fondateur de l'agence 1 minute 30. 1 minute 30, qui est une agence qui, maintenant, il y a 10 ans, 10 ans et demi même, je l'ai créée en mars 2012. Et on était pionniers, j'étais pionnier parce que j'étais tout seul à l'époque, en inbound marketing, ce qui était à l'époque aussi un mot barbare. Parce que, comme aujourd'hui, avec le revenu enablement, personne ne savait vraiment ce que c'était. Et c'était presque. Enfin, si, le mot inbound est à peu près aussi dur à traduire que le mot enablement. Et donc, j'ai participé en France à faire connaître l'inbound marketing, à déployer des campagnes ou des stratégies d'inbound marketing, tout d'abord pour l'agence. Qui bénéficie d'une très belle visibilité grâce à ça, avec plus de 200 000 visiteurs par mois sur notre site depuis pas mal d'années, avec un site qui a parfois été aussi puissant que le tien, ou en tout cas du même ordre de grandeur que le tien.
Ah oui, bah oui, parce que
Bon,
quand on va
on a
sur la
été
scène
assez
rouge.
présents sur les mêmes mots-clés. Et voilà, des newsletters régulières, et puis des beaux clients pendant ces 10 ans, beaucoup dans la tech au début. Des SAP, des Oracle, des Engie, des Sodexo, et toujours des beaux clients aujourd'hui, Vetokinol, RS Components, Pixid, enfin voilà des marques qui travaillent avec nous pour construire des stratégies d'acquisition aujourd'hui au sens large. On n'est pas que focus inbound. Aujourd'hui, on a développé depuis quelque temps une approche basée sur l'intelligence collective pour construire les stratégies et pour vraiment faire du sur-mesure, à savoir comprendre les parcours d'achat des clients, les clients de nos clients, vraiment d'abord travailler la compréhension des parcours d'achat client et en fonction de ça construire la stratégie, qu'elle soit inbound ou outbound, digital ou offline. Ce qui nous intéresse, c'est de mettre en place les leviers qui vont vraiment faire progresser les clients dans leur parcours d'achat et pas appliquer des recettes toutes faites, comme le sont l'inbound marketing, le growth hacking, l'ABM, etc. Avoir plutôt des approches dédiées et spécifiques. Et je crois que c'est l'enjeu du moment, c'est que tout devient plus dur, beaucoup plus compétitif, qu'il y a des choses qui marchaient très bien pour tout le monde il y a 10 ans parce qu'on était sur un espace vierge, le digital était un espace à conquérir. Et qu'aujourd'hui, cet espace n'est plus vierge, il est très concurrentiel. Donc, tout marche moins bien et il faut être meilleur, avoir des approches plus personnalisées, plus spécifiques. Et c'est ce qui nous amène finalement à ce que tu disais en intro, cette idée de revenu enablement, à savoir, et je vais préciser le terme, de faire monter en compétence les équipes marketing, vente et service pour qu'elle apporte la meilleure expérience aux clients et permettre de générer le plus de revenus. Pour moi, c'est ça la définition et je vais la décomposer parce que c'est vu que c'est un nouveau concept, c'est pas simple et que c'est un peu barbare comme l'inbound marketing l'était. Tu as parlé et tu as fourché une fois sur sales enablement. Ce concept est un peu plus connu, il a un peu plus d'antériorité. Le sales enablement, c'est faire en sorte que les commerciaux soient plus performants. Et pour faire en sorte que les commerciaux soient plus performants, il y a trois leviers. D'abord, travailler sur les process et la méthodologie commerciale, et en adopter une. Très souvent, il n'y en a pas, en particulier chez les sales. C'est parfois, souvent dans les équipes, un peu au petit bonheur, la chance, on donne des infos sur le produit aux sales, quelques éléments marketing, et ils se débrouillent pour se faire sa sauce, sa façon de prospecter, ses rendez-vous commerciaux, il se fait ses propres PowerPoint, il déroule ça de la façon qu'il veut. Le sales enablement, c'est vraiment se dire, tiens, ben, comme tous les métiers, la vente est un process, encore plus aujourd'hui qu'hier, parce qu'en plus, il y a plein d'informations que le client va trouver tout seul grâce au marketing, sur le digital, par les avis, les témoignages, etc. Donc, par rapport à ça, il faut que la vente soit plus professionnelle, avoir un vrai process, tant pour la prospection que pour la découverte, que pour le closing, formaliser ces process-là, réfléchir à chacune de ces étapes, mettre en place des modèles d'email pour quand on prospecte, mettre en place des vraies interviews de découverte qui soient vraiment centrées sur la question, sur la compréhension des enjeux des clients avant de faire des démos, avant de faire des présentations, vraiment bien structurer tout ça. Et de la même façon que sur L'acquisition, on a commis un livre avec les consultants de l'agence qui est Acquisition Strategy Design, dont j'ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, avec Nicolas Delinière d'une agence confrère qui s'appelle Sales Odyssey. On a commis un autre livre qui s'appelle Q2C Selling et qui travaille vraiment sur la création de ces process de vente. Donc, je suis toujours sur le Sales Enablement, sur l'une des trois composantes qui est la méthode et les process. La deuxième composante, c'est de donner des outils, y compris aux sales aujourd'hui. En plus, les métiers de sales se professionnalisent, se structurent avec des gens, encore des acronymes barbares américains, mais que vous connaissez peut-être, SDR, BDR, qui sont concentrés sur les aspects prospection et qui vont pouvoir disposer d'outils quand même beaucoup plus élaborés pour les guider dans la prospection, pour mettre en place des listes de tâches à faire avec des CRM pertinents. Je pense à HubSpot, dont on est nouvellement partenaire, mais pour d'autres, c'est Salesforce, pour d'autres, c'est d'autres CRM peut-être plus petits comme Pipedrive ou celle-ci. Donc, le CRM qui est au cœur aujourd'hui de la donnée client, mais aussi des outils qui vont permettre de créer des séquences d'emails pour de la prospection. On pense à Lemlist, on pense sur des choses plus évoluées à Outreach, ce genre de choses. On va avoir des outils aussi qui vont brancher le CRM à de la téléphonie IP. C'est des aircalls. Je pense qu'il y a des choses qui se font aussi chez toi, chez Holocan, sur ce type de sujet. Donc voilà, il y a de plus en plus d'outils qui permettent aux sales d'être plus performants, de mieux gérer leur diète de tâches, de pouvoir suivre ce qu'ils font, non pas pour les fliquer, mais aussi pour les aider à avoir gardé un rythme, avoir des rapports d'activité, être capable de montrer des indicateurs de ce qu'ils font et pas uniquement le chiffre d'affaires. C'est important parce que comme ça, on peut corréler l'activité au chiffre d'affaires, on peut mettre en place des process qui fonctionnent. Donc, j'ai dit première brique méthodologie process, deuxième brique outils pour aider la mise en place de ces process. Et tu parlais d'une startup que j'ai créée qui s'appelle SalesDay, qui est aussi, elle, plutôt centrée sur le moment du rendez-vous pour bien suivre les méthodos commerciales de découverte, de mode de présentation, etc. Et c'est un outil qui cherche à changer la façon de faire le rendez-vous, de l'animer, pour s'assurer qu'il soit aussi bien structuré, mais dans des CRM comme HubSpot, il y a des guides d'entretien qui peuvent permettre de suivre comme ça les méthodos commerciales. Et le troisième volet de l'enablement et du sales enablement, c'est la formation. Typiquement, pour que les commerciaux soient meilleurs, il faut aussi les former aux méthodos et aux process dont on a parlé, les former aux outils qu'on leur met à disposition. Et de fait, ça demande une vraie formation sur mesure au moment de l'onboarding des commerciaux, mais après tout au long de la vie du commercial, parce qu'il y a des nouveaux lancements produits, qu'ils doivent connaître les nouveaux lancements produits, parce qu'il faut évoluer les process, etc. C'est la formation et le renforcement par le management des process, et pas que le reporting. Donc là, je parle du Sales Enablement, et à travers SalesDeck, donc l'outil que j'ai créé, j'ai eu l'occasion d'interviewer beaucoup d'experts américains du Sales Enablement dans ce domaine-là, et j'ai vu l'avance que pouvaient avoir les États-Unis sur la formation et l'accompagnement de leurs équipes commerciales. C'est eux qui ont inventé ce terme de Sales Enablement. Pas très facile à traduire en français parce que ce serait la mise en capacité des commerciaux, un truc un peu comme ça. Donc, on va garder le terme barbare américain. Et le terme revenu enablement, il fait partie de la même famille. Il vient aussi des États-Unis et il englobe une démarche qui existe aussi depuis longtemps aux États-Unis, c'est la notion de Chief Revenue Officer ou de Revenue Operation, parce qu'en face du Sales Enablement, il y a aussi le Sales Operation, on pourra en parler tout à l'heure. Et donc, revenu, c'est englober tous ceux qui participent à la génération de revenus, donc tous les métiers qui sont au contact des clients, à savoir le marketing, les ventes et le service. Et c'est la même démarche, à savoir mettre en place des process et des méthodologies transverses pour ces métiers-là sur la régénération de revenus pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et là, je peux rajouter parmi les livres que j'ai présentés, je vais faire Resort Acquisition Strategy Design et Q2C Selling, il y en a un sur l'expérience client commis avec Valérie Vax, que tu as eu aussi la chance d'interviewer, qui va travailler sur cette dimension transverse de l'expérience client. Et donc, c'est méthodologie et process, Encore une fois, outils, et on a parlé des outils au service des commerciaux, mais typiquement le CRM, il ne doit pas être au service uniquement des commerciaux, mais aussi du marketing et du service. Du marketing pour faire ses campagnes sur les bases clients, pour avoir une vision transverse des comptes, parce que ça ne sert à rien d'envoyer un email de prospection à quelqu'un qui est déjà en contact avec des commerciaux ou même à quelqu'un qui est déjà client. Et s'il n'y a pas un CRM commun pour le marketing, pour les ventes et pour le service, ben ça ne fonctionne pas bien. Donc, c'est avoir cette transversalité des données. Et dans le partenariat HubSpot, et ce qui m'a amené d'ailleurs à monter un partenariat avec HubSpot aujourd'hui et pas il y a 10 ans sur l'inbound marketing, c'est vraiment aujourd'hui, c'est l'un des rares acteurs qui permettent à des entreprises TPE, ETI, d'avoir dans un seul hub, après il y a Salesforce et des choses plus compliquées derrière, mais d'avoir dans un seul hub un outil pour le marketing, les ventes et le service. Avec une structuration des trois hubs marketing, vente et service au sein d'HubSpot qui est très bien faite. Et c'est ce qui m'a amené à franchir le pas. Donc, il y a la dimension méthode process, la dimension outil avec potentiellement un hub tel que celui d'HubSpot au centre, mais ça peut être après, selon les cas de figure, d'autres solutions, hein, même plus petites. Je parlais de celle-ci, ça peut être aussi WebMécanique, qui est une solution intéressante française
Marketing automation.
qui couple
Française.
marketing automation et CRM. Et puis, dernier point, formation. Et là, moi, c'est un volet que je trouve vraiment très important. On en a parlé pour les sales, mais c'est vrai aussi pour les métiers du marketing et du service. On a besoin de formation sur mesure, encore plus depuis que beaucoup de collaborateurs sont en télétravail. On n'a plus la possibilité d'aller dans le bureau d'à côté ou sur le poste d'à côté, demander à son collègue c'est quoi notre positionnement, ou c'est comment qu'on fait ça dans HubSpot, ou c'est comment qu'on a tel et tel message, parce qu'on est parfois à la maison ou que le collègue est à la maison. Donc il est important.
Oui, c'est plus compliqué, hein. C'est les outils ont à la fois simplifié les choses, mais en même temps, cette distance-là a fait que les petites discussions à la machine à café sont plus là, que les gens sont un petit peu bloqués, sont moins dans le collaboratif, et il faut renforcer revenir à de l'informel dans tous ces outils digitaux.
Ouais, tout à fait. Et entre autres, pour moi, la formation est clé là-dessus pour donner des bases communes à l'ensemble des collaborateurs où qu'ils soient. Et ces bases communes, c'est pas c'est quoi le positionnement ou comment faire une landing page ou c'est quoi une méthode de vente de façon générale, mais c'est vraiment des choses qui sont spécifiques à l'entreprise. Le positionnement d'une entreprise, sa mission, ses valeurs de marque sont des éléments qui doivent être transmis à tous les collaborateurs. Et c'est souvent, là je parle surtout, et ça me permet d'ailleurs d'introduire avant-dernier livre de la collection Brand Strategy Design, j'arrive à faire le marketing de chacun de
Mais
nos livres, il
est-ce
en
qu'il en
reste un.
manque après dans encore? Est-ce qu'il
Il en manque un, je le garde pour la fin. Ces éléments de la marque, par exemple, mais je parlais de la méthode commerciale ou de la stratégie d'acquisition, doivent être partagés avec tous les collaborateurs. Encore dans plein d'entreprises, les éléments clés de la marque, à savoir le positionnement, la mission, les valeurs, etc., restent au marketing, sont parfois présentés au COMEX, mais la plupart des collaborateurs n'en ont jamais entendu parler, ou peut-être rapidement au moment de leur entretien d'embauche ou de leur première
Lors de
journée d'onboarding.
la grande messe annuelle où il y a le PowerPoint où le DG raconte encore du blabla.
Voilà. Alors que aujourd'hui plus qu'hier, c'est les éléments de la marque qui font la différenciation, qui font le positionnement, sont des éléments que tous les collaborateurs doivent connaître, et en particulier tous ceux qui sont en contact des clients. Donc cette notion de formation sur mesure renforcée au moment de l'onboarding, tout au long de l'année aussi, parce que une entreprise évolue régulièrement, sur les éléments forts de la marque, sur les éléments sur les process, vision, sur les outils.
Ouais, moi, je vous dis toujours, la vision, c'est important que les gens connaissent la vision de la boîte parce que normalement, la vision, ça explique pourquoi on se lève le matin et surtout quand on a une situation, la vision d'entreprise ou la mission doit être capable de dire, mais quand j'ai une situation particulière, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois privilégier bah, justement de la satisfaction client ou alors c'est plutôt, est-ce que je dois essayer de faire du chiffre d'affaires un maximum? Ça permet de donner du sens, en fait, à ce que font les...
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et de fait, ça doit être transmis. On doit s'assurer que les collaborateurs la connaissent et l'appliquent. Et ce qui m'amène d'ailleurs sur ce volet formation à amener, est-ce que tu viens de dire en termes de sens, et ça rejoint la notion de marque employeur. Donc, c'est le cinquième et dernier bouquin. Il n'y en aura pas d'autres, qui est 3 méthodes marketing pour les RH. C'est
après,
que
tu pourras rajouter après sur les services. Hein. Les services, c'est aussi quelque chose. Le support client, bon, tu l'as un peu dans l'expérience client. C'est vrai.
Ouais, je l'ai un peu dans l'expérience client. Je finis juste sur le point sur les RH. C'est que les RH, pour moi, sont au cœur de ces métiers de l'enablement, que ce soit du revenu enablement, du sales enablement. Les RH sont acteurs. C'est eux qui embauchent les collaborateurs. Et là-dessus, les notions de marque employeur, de stratégies de recrutement sont importantes, d'onboarding sont très importants. Et puis, la formation, c'est souvent chez les RH. Et à ce titre, ils doivent être associés à ces démarches de revenu enablement. Et j'ai même interviewé un RH qui était patron du sales enablement chez Dormakaba. Donc, il y a certaines boîtes qui placent le sales enablement, non pas chez les sales, mais chez les RH. Donc, c'est assez intéressant de se dire qu'on est aussi dans... vraiment les RH au service des métiers, au service de la formation. Et ça ne doit pas être une fonction support à part qui sert juste à embaucher. Et tu parlais des services, oui. Ces valeurs, pour moi, de la même façon qu'on doit former les sales, c'est ce qui est le plus connu, qu'on doit former les marketeurs et partager les valeurs des marketeurs, ben, du côté des services clients, même des opérations, ces notions de valeur, de mission, de vision doivent être partagées. Les process de comment on fait du support client, de comment on répond, ça, c'est des choses bah, qui, de la même façon que pour le commercial, bah, il y a des interviews, des machins, des mails, des modèles de templates d'email. Bah, on peut faire la même chose pour des modèles de réponse, des templates de réponse, des séquences. Qu'est-ce qu'on fait dans tel cas de figure
Je suis d'accord avec toi, parce que souvent,
en fait, avoir des bases de connaissances, etc. Et les partager, former les nouveaux collaborateurs support là-dessus et pas les laisser seuls se débrouiller à rédiger leur propre mail, à demander au voisin qui n'est plus voisin comment il faut répondre dans ce cas-là, etc. Il faut le formaliser. Et en fait, les métiers de l'enablement, c'est ça. C'est le formalise, l'outil et le forme.
Exactement, parce que ce qui se passe, c'est que moi, je vois bien dans pas mal de boîtes, autant au niveau marketing, niveau commercial, en fait, c'est assez carré. Et c'est vrai que le client, il est accompagné, il est choyé et tout ça. Puis après, quand il a acheté, allez, c'est bon, à vous tout débrouiller. Et souvent, le client déchante derrière, alors qu'au contraire, il faut continuer dans son parcours client, dans son expérience client, à se dire, OK, bah, le client, c'est bon, il a signé, mais ce n'est pas juste une carte de crédit, ce n'est pas juste un monde courant. Maintenant, il faut continuer là-dessus. Et dans ce revenu enablement, il y a peut-être aussi la partie business model et la partie maximisation du revenu qui est intégrée ou c'est vraiment les différents blocs que tu as cités précédemment?
Il y a vraiment, pour moi, il y a deux bénéfices dans le revenu enablement que j'ai présenté rapidement au début. C'est d'une part, une expérience client la meilleure possible. Et ça rejoint aussi ce que tu viens de dire. On parle beaucoup d'alignement marketing-vente. C'est important parce que c'est le même client qui achète, mais il faut un alignement marketing-vente-service. Et typiquement, une fois la vente finie, ce que tu viens d'évoquer, il faut qu'il y ait un onboarding qui enchaîne et qu'il n'y ait pas de perte d'informations entre les infos collectées lors de la découverte par les vendeurs et ce qui est transmis au service. Et là, encore une fois, d'avoir un CRM unique, d'avoir des outils de gestion de projet communs, partagés, etc., sont des éléments clés. Et effectivement, le deuxième objectif du revenu enablement, c'est bien sûr faire plus de revenus ou permettre plus de génération de revenus. Et ça m'amène à introduire un premier outil qu'on a créé Autour du revenu enablement, je vais partager mon écran. Si tu en es d'accord, c'est ce qu'on a appelé le revenu enablement canvas. Donc, tu l'as vu avec les différents bouquins qu'on a fait, qu'on est pas mal centré sur l'intelligence collective, sur les canvas. On a fait un canvas qui va aider, alors qui ressemble au business model canvas, qui n'a pas les mêmes cases que le business model canvas, et qui va aider à trouver les process ou les goulots d'étranglement aujourd'hui pour une marque dans sa génération de revenus. Et là-dessus, on les a organisés en trois grandes catégories. Il y a de l'acquisition, donc tout ce qui est génération de leads, conversion, façon de distribuer son offre. Il y a ce qu'on a appelé innovation, mais qui sont les fondamentaux d'une marque. C'est l'offre, c'est la marque, c'est les ressources humaines et c'est les data. Et si on, et pourquoi on l'a appelé innovation, c'est parce que si c'est un goulot d'étranglement et que l'offre n'est pas bonne, et ben il faut savoir innover pour la changer.
Et puis après, en bleu, par exemple.
Typiquement, en ce moment, dans une période où tu parlais du business model, où pour beaucoup, avec l'inflation, il y a beaucoup de coûts qui augmentent, ça amène potentiellement à faire évoluer son offre pour prendre en compte l'évolution des coûts. Et que ce soit faire évoluer tout simplement son pricing et augmenter le prix, mais ça, on ne peut pas toujours le faire, parce qu'on ne peut pas toujours se le permettre. Mais parfois, changer les composantes du produit pour que ce soit moins cher. Enfin, voilà, il y a des réflexions aujourd'hui qui sont de l'ordre de l'innovation, de l'ordre de l'adaptation de l'offre aux nouvelles conditions du marché. Le fait qu'aujourd'hui, pour 1:30, on se repositionne sur le revenu enablement, c'est qu'on a aussi conscience que dans le marché actuel, travailler sur l'efficacité, ça marche mieux et c'est plus utile que travailler sur l'acquisition en faisant à la place du client et donc en étant uniquement un poste de coût, là où est potentiellement de revenus si on arrive à générer plus de clients, là où en travaillant sur l'efficacité, le ROI est plus mesurable et on met en capacité nos clients à être plus performants. Donc, selon les cas de figure, on va avoir des goulots d'étranglement, et c'est ce que représente le petit cadenas et les petits chiffres 1, 2, 3, qui vont permettre d'identifier par l'intelligence collective à travers un jeu de questions qu'on a dans ce canevas revenu enablement pour chacune des cases, qui vont aider à identifier les points de blocage, à se focusser sur les cases sur lesquelles il faut travailler en priorité avant d'adresser les autres. Parce que typiquement, si l'offre n'est plus bonne pour des questions d'inflation, etc., ça ne sert à rien de mettre le paquet sur l'acquisition de façon assez naturelle. Si les clients ne veulent pas de l'offre parce qu'elle est trop chère, on aura beau investir et pas concurrentiel par rapport à un concurrent qui fait quelque chose de mieux moins cher. On aura beau mettre le paquet en génération de leads, dépenser des fortunes sur Google, sur Facebook, etc. On risque de déchanter. Et donc, il faut...
Pareil avec notre solution, c'est dire, mais vous faites comme les autres, vous êtes plus cher. Si on n'arrive pas à se dire, bah oui, mais on est plus cher parce qu'on fait ci, parce qu'on fait ça, ou parce qu'il y a une valeur perçue qui est différente. Là, j'ai partagé justement sur LinkedIn il n'y a pas longtemps une petite vidéo que j'aime bien. C'est une expérience qui est assez connue. Je pense que tu l'as déjà vue. C'est un violoniste en fait qui est un violoniste mondialement connu qui joue avec un violon qui vaut 3 millions de dollars. Donc Joshua Bell qui joue comme ça dans le métro, incognito avec sa casquette, avec son violon, mais il joue avec une virtuosité, des morceaux extrêmement compliqués pendant 45 minutes. Et là, en fait, il joue comme ça, comme un malade, et en fait, il se donne à fond, il est au taquet. Et on le voit quand il joue au violon, il transpire, il est au taquet. 45 minutes comme ça dans une station de métro Washington en 2007. Et donc, vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et la semaine d'avant, ou 3 jours avant, il était dans une salle de concert à 100 € la place. C'était full complet, etc. Et là, il joue dans le métro avec des gens. Il y a plus de 1000 personnes qui passent, 1097 personnes qui passent. sur les 1097 personnes, en fait, il y en a, je crois que c'était 27 qui se sont arrêtés pour lui donner de l'argent. Une partie, c'est juste un petit argent, etc. Et il a récolté 32,17 $ en jouant 45 minutes, 32,17 $, alors qu'il se fait des dizaines de milliers de dollars en jouant devant des salles combles, tout simplement parce que la valeur perçue n'était pas du tout au rendez-vous. La personne, en fait, qui était là, il y a une seule personne, t'en es rendu compte parce qu'elle a dit ah, je vous ai vu il y a quelques temps jouer, je suis une grosse fan, et lui a donné 20 $ 20 $ uniquement, alors qu'elle avait payé sa place 100 $ quelques temps plus tôt. Donc en fait, c'est pour montrer que la valeur perçue est essentielle. S'il n'y a pas de valeur perçue, ça ne vaut rien. Et que tu as dit, s'il n'y a pas de valeur perçue ou une volonté ou un besoin suffisant, bah, ton offre, elle va pas marcher, quoi.
Tout à fait. Et pour le coup, la notion de valeur perçue, elle n'est pas nécessairement de l'offre ou dans l'acquisition, elle va être plus aussi sur la place liée à la marque, à la différenciation, etc. Et donc, le Canva en question, il t'aide à identifier tes points de blocage. Et puis derrière, je vais peut-être repasser sur le partage d'écran. Derrière, justement, il permet de réintroduire la bonne méthode. Donc, il y a une petite définition du revenu enablement. Qu'est-ce que c'est? On en a parlé tout à l'heure. Des trois sujets, des trois pans de l'activité, donc des méthodes et des process, de la formation et des outils. Si on a identifié, en fonction de la case, on peut utiliser une de nos méthodes d'intelligence collective pour travailler sur ce process-là avec les bons acteurs dans l'entreprise. On a toujours cette vision transversale. Donc, sur l'acquisition, on va bosser avec le marketing, les ventes, la communication. Sur le service, ça va être plus large parce que ça va couvrir le marketing, les ventes, la communication, mais aussi toutes les opérations et tous les acteurs qui participent au service. Enfin, voilà, l'idée, c'est de créer de la transversalité. Quand on travaille sur Q2C Selling, sur les process de vente, l'idée, c'est de mettre autour de la table les équipes commerciales et de faire en sorte que les bonnes pratiques soient partagées, parce que souvent, en plus, je le disais tout à l'heure, les vendeurs, si on ne leur a pas donné les outils, si on ne les a pas mis en commun, chacun va avoir des pratiques différentes. L'intelligence collective va permettre de mettre en commun les bonnes pratiques, aussi de s'appuyer sur des méthodologies tierces pour s'assurer que ce qui se fait… tout le monde a eu des formations tierces sur des méthodes de vente, les médics, les mappings, etc. Mais après, c'est comment les appliquer, comment s'assurer que tout le monde les applique de la même façon pour que on puisse la faire progresser. Parce que si chacun a sa façon de l'appliquer, on ne peut pas comparer, on ne peut pas voir ce qui marche et ce qui ne marche pas et faire progresser. Le lien entre le Canva qui permet d'identifier tous nos livres et nos méthodes, et pas que les nôtres d'ailleurs, parce qu'on sait s'appuyer sur des méthodes qui sont intéressantes comme Winning by Design, on sait s'appuyer sur Alex Osterwalder qui a fait le business model Canva, mais aussi le value proposition design, qui sont des méthodes intéressantes justement pour retravailler sur l'offre, la réaménager. Là-dessus, on n'avait pas eu besoin de créer de méthodes vu qu'elles existaient déjà. Mais l'idée, c'est de faire travailler en commun les équipes pour qu'elles construisent ensemble, enfin qu'elles s'approprient d'abord les problèmes. C'est la notion de double diamant, comprendre, identifier les problèmes, se mettre d'accord sur le problème et puis trouver après les solutions pour les résoudre. C'est ce canal-là qui est notre première ressource sur le sujet.
Est-ce que tu aurais un exemple d'un cas pratique d'entreprise qui a mis en place le Renewal Enablement, et qu'est-ce que ça a donné en fait, sur quoi ils ont changé, qu'est-ce que ça a donné ce genre d'atelier, et quels ont été éventuellement les résultats, si tu peux en partager, si ce n'est pas confié, bien sûr.
En cas pratique, on est vraiment au début de ce repositionnement, mais on a déjà pratiqué la plupart des ateliers, mais on va dire sans le chapeau revenu enablement dont je viens de parler. Ça fait 3 ans qu'on a commencé à lancer nos méthodes d'intelligence collective, qu'on anime régulièrement des ateliers pour produire des plans stratégiques. Ces ateliers ont vraiment cette vertu de réunir les gens autour de la table et de les aligner et de faciliter vraiment le travail en commun. Typiquement, chez un de nos clients Pixid, on a fait vraiment ce travail autour de l'acquisition où on a réuni autour de la table les équipes marketing et les ventes qui n'avaient pas tant que ça l'habitude de se parler. Les ventes avaient au début une approche très traditionnelle où ils étaient très autonomes. Chaque vendeur d'ailleurs avait une forme d'autonomie et finalement un reporting à la direction commerciale. Le fait de travailler ensemble sur l'acquisition strategy design et après sur des process de vente aussi en commun a permis de vachement mieux aligner les process, de vraiment progresser en termes de notoriété de Pixid, de visibilité et de fait d'avoir de travailler avec cet annonceur depuis, je crois, on doit être à la quatrième année, avec des budgets qui croisent d'une année sur l'autre parce que les résultats sont au rendez-vous. On n'appelait pas ça encore revenu enablement, mais finalement, on met en place les outils, on a déployé des outils de marketing automation chez eux, on a mis en place les process, les méthodes. Ce qu'on n'a pas fait encore chez ce client-là pour que ce soit vraiment de l'enablement, c'est la dimension formation. Alors, on l'a fait incidemment par des ateliers du travail en commun, mais on n'a pas mis en place, et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait pousser chez ce compte-là et chez un certain nombre de nos comptes, le fait de créer ces formations sur mesure qui, à travers des outils d'onboarding, de LMS, etc., ou même des formations physiques, hein, parce que ça reste sympa, surtout quand tout le monde est en télétravail, pour s'assurer que les méthodes, les process, les outils soient partagés avec l'ensemble des collaborateurs.
Il y a un excellent cas que j'aime beaucoup citer, c'est Malakoff Médéric, qui en fait a travaillé sur la partie expérience client. Et c'est vrai que, entre guillemets, ils ont pris un risque et ils sont passés d'un format, une formation sur la gestion de la relation client, genre la gestion de l'insatisfaction, les contents, etc., qui était un format classique, un jour, deux jours, parfois ils disaient ouais, 3 jours dans les meilleurs des cas, et ils sont passés sur un format de 5 minutes tous les jours, enfin je crois qu'il y a une partie présentielle, et ensuite il y a 5 minutes tous les jours, et en fait, ça a permis de transformer en fait un acte en un réflexe, et ça je trouve que c'est assez intéressant, et comme tu disais, parfois un petit e-learning, une petite gamification, un rendez-vous avec les managers tous les matins, et je crois qu'ils appellent ça les 5 minutes du client ou la minute du client qui dure 2-3 minutes, où ils partagent une bonne pratique, un retour d'expérience. Ça c'est vraiment intéressant parce que je trouve que ça permet d'ancrer dans le quotidien et pas faire, comme tu disais, la partie formation est essentielle, parce qu'autrement tu fais une formation, moi j'ai déjà fait des formations sur la vente, sur le marketing et tout ça, puis ouais, c'est de bonnes idées, des bonnes idées, tu notes sur ton cahier, puis après tu retournes chez toi, et finalement, tu n'as pas mis la moitié en place parce que tu n'es pas dans le quotidien, parce que ce n'est pas interpris dans le quotidien, etc. Je suis tout à fait d'accord avec toi que cette partie formation ne doit pas être négligée, et pour changer et faire bouger les lignes de manière durable, bah, il faut que le geste devienne un réflexe.
Ouais, c'est un très bon exemple, et c'est vrai que dans le domaine de la formation, je pense que si on commet un nouveau livre, ce sera sur la formation. Il y a quand même énormément de nouveaux modes d'apprentissage qui existent, le 100% online, le blended, le contenu court, le mobile. Et finalement, toutes ces nouvelles formes d'apprentissage, ben, l'entreprise doit se les approprier et trouver associer par rapport à l'objectif pédagogique, par rapport à la situation, le bon format de transmission. Et il y a des méthodes d'intelligence collective qui existent là-dessus, qui s'appellent Learning Experience Design. Et c'est un sujet qu'on va creuser avec des consultants et des experts avec qui on est en discussion en ce moment pour vraiment être en capacité d'utiliser ces méthodes pour construire les formations ad hoc des entreprises. Et l'exemple que tu donnes est excellent pour ça.
Alors, il nous reste encore quelques minutes. Je voulais en fait finir par un petit peu comment commencer en fait. Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce que tu as des exemples de quick win que l'on peut mettre en place? Et bien entendu, à la fin, c'est comment on peut faire pour aller plus loin et comment on fait pour contacter ton agence pour mettre en place cette stratégie de revenu enablement?
Les quick wins, j'ai un peu réfléchi, un peu préparé ma liste, parce que tu m'avais prévu que tu allais me poser cette question. Je pense que dans les premiers quick wins, c'est Et pour ça, le Canva que je vous ai présenté est intéressant, c'est que, un, il faut se réunir. En général, les problèmes liés aux revenus, on est rarement seul à pouvoir les régler. Et mettre la pression sur le marketing en disant « t'as pas tes leads », sans prendre du recul sur « on a parlé de l'offre ou de la marque », et de se demander pourquoi il a pas ses leads alors qu'il y a un budget, etc. Ça marche rarement. Il faut prendre du recul pour trouver où sont les problèmes. Donc, il y a un peu deux sujets. C'est un, se réunir et se mettre autour d'une table, essayer de trouver une réponse à des problèmes tout seul quand on contrôle qu'un petit bout du process, ça ne marche pas. Et deux, avoir une vue d'ensemble et balayer cette vue d'ensemble. Le Canva que je vous ai présenté ou que je te présentais, il est utile là-dessus parce qu'il va permettre de se dire, tiens, c'est là-dessus qu'on doit travailler en priorité. Et tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, ça ne sert à rien de vouloir chercher à régler l'autre problème. J'ai vraiment toujours cette vue systémique des choses où, avec cette vision des goulots d'étranglement où en général, y en a un qu'il faut débloquer et après, il y en a peut-être un autre qui passe ailleurs.
Je
suis
100% d'accord avec toi, ouais, parce qu'en fait, tu vois, lors de la période du Covid, on était un peu comme toutes les entreprises à se dire comment on va pouvoir gérer un petit peu de cette situation de manière un petit peu complexe et comment en fait on va pouvoir après générer plus de business. Et c'est vrai que côté marketing, on avait commencé à réfléchir à des actions, etc. Et puis en fait, il y a eu un comité de réflexion multi-services. Il y avait à la fois, comme tu disais, les services. Ce qui était professional services, il y avait l'informatique, il y avait le marketing, il y avait les commerciaux, il y avait direction générale. Et c'est là en fait qu'on a vu émerger des offres qu'on disait, mais merde, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Permettre aux gens d'envoyer des SMS, permettre aux gens de faire du télétravail. Et même on a fait des choses comme offrir des choses. C'est-à-dire qu'on a dit, pendant cette période difficile, on offre en fait des licences pour que les gens soient à distance, pour qu'on soit en phase avec la culture, comme tu l'as dit, la culture, les RH. Et on a fait des offres comme ça gratuites, payantes. Et c'est vrai que certains clients nous ont dit, waouh, merci de nous soutenir dans ce moment-là. Donc, à la fois, on a fait du business et en même temps, en fait, on a renforcé le relationnel avec les clients.
Donc, moi, je pense qu'en coaching, c'est surtout pas se précipiter pour faire un truc seul dans son coin. C'est se réunir, prendre un peu de recul, identifier les problèmes. Une fois qu'on les a identifiés, on a souvent pas non plus besoin d'aller faire des grosses études ou de prendre beaucoup de temps pour lancer des trucs. Il y a quand même des choses qui émergent. Le bon sens. Tu viens de montrer l'exemple dans le cas de la Covid, mais on peut souvent, parce qu'on est réunis autour d'une table, parce qu'on partage la même vision du problème, trouver des premières réponses de bon sens. Typiquement, s'il y a un ingrédient en particulier dans son offre qui a particulièrement augmenté en prix et qu'on peut s'en passer ou qu'on peut le réduire, on peut changer potentiellement la composition de l'offre. Je donne un exemple, je disais un truc que je trouvais intéressant sur les restaurateurs. Les restaurateurs ont cette capacité, s'ils veulent garder le prix de leur menu, avec des choses de l'inflation et les prix des matières premières qui augmentent, on peut travailler des produits moins chers pour garder le prix du menu et garder sa marge. Enfin, il y a toujours comme ça une capacité à ajuster l'offre aussi potentiellement. On parle beaucoup de l'offre, mais...
Ouais. Dans la grande distribution, tu vois bien que les packaging parfois ont diminué
ouais.
parce que y a un peu moins de matière, mais le prix n'a pas bougé. Ça, c'est un moyen ou alors changer la taille du contenant en faisant plus en vendant moins. Ça me rappelle vraiment la stratégie Océan Bleu avec la fameuse matrice que tu as citée, ERAC. Soit on exclut quelque chose, des éléments qui n'apportent pas de valeur ajoutée pour le client, c'est la perception. On fait un R comme renforcer ce qui a de la valeur perçue pour les clients mais qui n'est pas assez développé et qui peut être amélioré. Le A de atténuer pour supprimer, réduire ou simplifier des éléments qui n'ont pas de valeur perçue pour le client et qui n'estiment pas nécessaire. Et C pour créer de la valeur ajoutée pour ceux qui n'existent pas encore, comme tu le dis, avec de la nouvelle fonctionnalité, de l'innovation ou du service. Et c'est vrai que moi, je l'avais fait à l'époque. Quand j'étais chez Ciel, on était en grande distri, on était face à nos concurrents qui vendaient aussi des logiciels. Et c'est vrai qu'on était on a le même nombre de logiciels, il y avait un pack avec de la compta, de la gestion et tout ça. Et on disait, mais comment on peut faire pour que la valeur perçue plus forte. Et c'est vrai que on était en train de réfléchir sur pas mal de choses et on s'était, et à l'époque, eux, ils avaient 6 logiciels, nous, on en avait 5. On s'est dit, bah, tiens, on va rajouter un 6e logiciel pour être d'équerre avec eux. Donc, on avait passé un partenariat, hop, 5 pour 5. Ensuite, on avait travaillé sur la valeur perçue parce que si on ne pouvait pas toucher le logiciel, on avait travaillé sur les captures écran. Et ensuite, on avait travaillé sur le wording et le packaging parce qu'on avait fait un focus group comme ça auprès des clients en leur disant, mais qu'est-ce qui est le plus important chez vous donc, quand vous choisissez un logiciel de gestion? Les gens disaient, bah, ce qui est le plus simple, le plus important, c'est que le logiciel soit simple, facile à utiliser et bah, que soit que je suis efficace. Et on avait changé les bénéfices et on avait mis en avant simple, rapide, efficace. Et en fait, rien qu'en faisant ça, et ces éléments-là, bah, déjà, je pense que le 5, enfin 6 pour 6, c'était un point fort. Mais là, déjà, en travaillant sur l'égalité, sur la valeur perçue et le look, on avait vraiment réussi à remonter fortement.
Ouais, tout à fait, et on le voit, c'est et on peut aider nos clients à animer, à faciliter ce type d'atelier de réflexion, et on utilise la méthode ERAC aussi. On le voit qu'on peut trouver très vite, parce qu'on s'est réuni des solutions qui sont parfois du bon sens, qu'on peut mettre en œuvre rapidement, qui vont avoir des résultats rapides. Donc ça, c'est pour parler de quick win. De la même façon, tu m'avais demandé 5 quick wins, il y a la dimension outils. On a souvent déjà des outils en place, mais souvent, on ne les utilise pas nécessairement très bien. Ils ne sont pas très bien paramétrés. On n'utilise pas toutes les fonctions. Donc, une des premières choses à faire, si on veut améliorer son efficacité, c'est un, travailler sur les process, parce que ça ne sert à rien de travailler sur les outils avant de travailler sur les process. Mais souvent, les outils permettent de déployer des outils qu'on a déjà permettent de déployer des process et d'être plus efficaces, de gagner du temps, de gagner... d'automatiser certaines tâches qui sont rébarbatives, de mieux gérer d'autres tâches, de s'assurer que les process sont respectés. Et on en a déjà beaucoup parlé, c'est former ses équipes, c'est jamais du temps perdu. Le retour sur investissement de la formation, de façon générale, c'est le meilleur retour sur investissement possible. Avec des multiples, on passe une journée de formation à quelques milliers d'euros. Un commercial qui, après une formation, va closer une vente et faire plusieurs dizaines de milliers d'euros, on est dans du x10 du jour au lendemain, et il n'y a pas d'autres secteurs d'activité qui peuvent avoir le même retour sur investissement. Ne pas négliger la formation, prendre le temps de concevoir des formations adaptées, de s'assurer que tout le monde les partage.
Ouais, je te donne une petite anecdote. Tu vois, alors là, ce n'était pas de la formation, mais c'était un bouquin qui s'appelle « Ne coupez pas la poire en deux ». Et c'est vrai que ce bouquin, je l'aime bien parce que…
Et tu m'as fait lire d'ailleurs, qui est
ouais,
très bien.
Je trouve qu'il se lit bien, quoi. Il y a des petites histoires et tout ça. Et donc là, j'abonde dans ton sens en disant, tu vois, il y avait notre responsable du BizDev, donc Frédéric, un autre Frédéric, et puis Frédéric Zakal. Et je lui disais, tiens, il y a un super bouquin à lire. Il me dit, ouais, les bouquins, ouais, sur la vente, ouais, c'est… Mais s'il y a un truc. Et il y avait un truc important qui était dans ce bouquin, qui était quand un client ne répond plus à tes emails, tu lui envoies un message, est-ce que vous avez abandonné votre projet 2? Et juste ça. Et il me disait, wow, tu crois que ça marche? Je dis, bah, bien sûr, c'est écrit dans le bouquin, essaye. Et c'est vrai qu'il l'avait essayé. Il m'a dit, ah, c'est dingue, ça marche. Puisqu'il y en a un qui m'a répondu, l'autre, j'ai pas une nouvelle, mais je sais pourquoi, parce qu'elle a changé de boîte. Et donc, tu vois, comme tu dis que ça peut faire x10, là, rien que ce petit... astuce, hein, mais c'est rien que ce petit truc-là a permis d'aller débloquer une affaire et de savoir que finalement la personne, elle disait non, on n'a pas abandonné notre projet, mais c'est repoussé à début de l'année prochaine. Voilà.
Non, mais c'est ça, la formation, le lire, se former, que ce soit à travers une formation mise en place par la boîte ou que ce soit de quelqu'un qui choisit de se former lui-même, hein, et de toute façon, ceux qui réussissent sont ceux qui se forment eux-mêmes quand la boîte ne le fait pas. Ça a des résultats incroyables. Et c'est ce qui fait qu'on peut rebondir dans un monde qui est en changement permanent. Et donc, on a besoin de se former en permanence et les entreprises doivent former leurs collaborateurs en permanence.
Alors justement, si on veut être formé et apprendre la méthode et découvrir ces ateliers participatifs sur le revenu, comment on fait?
Alors justement, nous on prévoit de monter une formation, on va sûrement la lancer fin janvier sur les métiers du revenu enablement. On n'a pas encore ni la durée ni la forme, Mais c'est un vrai sujet sur lequel on travaille. En attendant, sur notre site, dès la homepage, vous pouvez télécharger le Revenu Enablement Canvas. C'est la petite animation qui tourne sur la home, en haut de la home à gauche, où il y a des petits personnages qui posent des questions. Et à la fin de l'animation, il y a le canevas qui est mis en avant. Il suffit de cliquer sur l'animation pour avoir le lien, de le formulaire de téléchargement du canevas. Puis, vous trouvez dans toutes vos librairies, et sur Amazon en particulier, parce qu'on a notre propre boutique, les 5 bouquins de méthode dont je vous ai parlé. Donc, Acquisition Strategy Design, Brand Strategy Design, Customer Experience Redesign, Q2C Selling et 3 méthodes marketing pour les RH. Et dans les semaines qui viennent, on va continuer à produire des contenus sur le sujet. On va remettre en place un webinaire hebdomadaire sur le revenu enablement avec nous et nos partenaires et nos consultants. Dans les partenaires, on a créé une offre d'outils assez complète sur les sujets du revenu enablement avec HubSpot dont j'ai parlé, WebMécanique, Drop Contact pour le nettoyage de données, Nomination pour l'enrichissement, le rajout de données, du Livestorm, du Keyflow pour les partenariats. On essaye de travailler le plus possible avec des acteurs français. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on creuse s'il y a des choses à faire en commun avec Eloquent aussi. Enfin voilà, on met en place petit à petit ce nouveau positionnement, tous les contenus qui sont liés à ça. On a des bases solides, en particulier avec nos méthodes et notre expérience depuis 10 ans. Et puis, on vient rajouter les composantes manquantes pour pouvoir accompagner le marché français sur cette nouvelle démarche et cette nouvelle, comment dire,
manière d'appréhender, oui, d'améliorer ou d'optimiser son business model et surtout son...
Voilà, c'est des nouveaux métiers aussi dans les entreprises et en particulier dans les startups et les scale-up qui s'inspirent beaucoup des Américains. On voit des sales enablement managers, des revenue enablement managers. C'est des gens qui reportent soit au directeur des ventes, soit au DRH, on en a parlé tout à l'heure, soit au CRO, donc au chiffre revenu officer, quand il y en a qui va chapeauter marketing, vente, service, le cas échéant. Enfin voilà, on a aussi une recomposition des organisations, décilotées, avec orienté process, qu'on a envie d'accompagner et donc former sur ces visions-là et sur ces nouveaux métiers. Et une nouvelle méthode.
Merci Gabriel pour toutes ces informations très très riches. Et donc, n'hésitez pas à aller sur le site 1minute30.com pour télécharger le Revenue Enablement Canva. À bientôt.
Merci beaucoup Fred.